Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
C'est presque mon petit moment de bonheur de la journée, vous retrouver. C'est vrai, je le disais hier, mais voilà, je tiens parole et honnêtement, je suis ravie. Alors, on va commencer ce soir avec l'information que nous livrait Isabelle Mille il y a quelques instants, Emmanuel Dutheil dans son rappel des titres et dans son journal. C'est l'aéroport d'Orly temporairement fermé, là, à compter du 31 mars, donc dans 6 jours, hein, face à la chute du trafic aérien. 2 terminaux de la plateforme avaient déjà été fermés, ça s'imposait.
Oui, ça s'impose puisqu'il n'y a tout simplement quasiment plus de trafic aérien. Toutes les grandes compagnies mondiales ont décidé d'arrêter et des compagnies très importantes pour l'aéroport d'Orly, comme par exemple Transavia, vous savez, c'est la low cost d'Air France, qui a décidé de suspendre là pendant quelques jours tous ses vols. Bah, à partir du moment où il n'y a plus de compagnie, il n'y a plus besoin d'avoir ces terminaux. Donc c'est fini pour quelques jours à Orly à compter de mardi prochain. Ça entre en vigueur le 31 mars. Et comme vous le disiez, Nathalie, il y a également des mesures depuis quelques jours. Cette fois à l'aéroport de Roissy. C'est le terminal 3 qui est également un terminal d'où partent des compagnies low cost qui a été fermé, et le 2G qui est un des gros terminaux cette fois de l'aéroport de Roissy qui a également été fermé ces derniers jours. C'est un exemple quasi historique, hein. Ce n'était jamais arrivé en temps de paix comme ça qu'on doit fermer des terminaux de l'aéroport, des aéroports de Paris. Donc un signal, si on en avait besoin d'un, que l'économie mondiale et les transports au niveau mondial sont à l'arrêt.
Bien sûr, on va revenir évidemment sur le soutien aux entreprises dans un petit instant avec vous. Je voudrais faire un tour de table virtuel en tout cas. Ève Roger, et puis d'ailleurs Michaël Darmon, vous allez pouvoir aussi réagir sur ce point. Emmanuel Macron, ce soir-là, qui est arrivé à Toulouse. Alors à Toulouse, on sait ce qu'il en est.
À Mulhouse.
J'ai dit quoi?
Hop, Mulhouse. Hop,
vous voyez, c'est mon envie de soleil peut-être. Remarquez, il y a peut-être aussi du soleil à Mulhouse. Parce que évidemment, qu'est-ce qui se passe à Mulhouse? Il y a cette hôpital de campagne pour désengorger les hôpitaux du Grand Est, hein, déployé par le service de santé des armées, au pied même d'ailleurs de l'hôpital de Mulhouse. C'est une première en Europe. Emmanuel Macron, qui prendra la parole sur place à 20h. Ce déplacement sur le terrain, Ève Roger, cet hommage aux soignants après celui aux caissières, c'est la bonne chose à faire?
Je pense que je ne sais pas si c'est pour les soignants, c'est évidemment pour eux, mais c'est aussi pour l'organisation de l'Agence régionale de santé du Grand Est qui multiplie les possibilités pour désengorger. Il y a quand même 3 hôpitaux, Mulhouse, Colmar et Strasbourg. Mmh. Et voyez, il y a le TGV médicalisé, il y a cet hôpital de campagne, il y a la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg où des patients vont être envoyés. Donc ça veut dire que la région déploie des énergies folles pour ne pas arriver là où personne ne veut arriver, c'est-à-dire à trier les patients. C'est-à-dire que là-bas, il y a peu de respirateurs sans doute, et qu'on multiplie toutes les possibilités pour permettre à chacun de pouvoir être soigné. Et ça, c'est formidable, et je pense que c'est ça qu'Emmanuel Macron va souligner.
Emmanuel Macron qui va souligner ça sur place, mais avait-il besoin de se déplacer, Michaël Darmon? Là, je vous interpelle parce que vous avez peut-être entendu tout à l'heure mon invité, le professeur Lantieri, de l'hôpital Pompidou à Paris dans le 15e, qui disait c'est quand même pas la bonne chose à faire. Ok, le soutien c'est une chose, mais d'abord l'exemple c'est de rester confiné, et y compris le président doit donner l'exemple en substance. Hein.
Alors, en l'occurrence, l'exemple qu'il doit donner, puisque le président Macron a choisi de filer la métaphore guerrière, c'est d'être évidemment, de montrer qu'il est en première ligne. Ce qui s'est passé aujourd'hui et les images que l'on voit et qui défilent en voyant le président de la République avec un masque, c'est du jamais vu. On est dans une logique de déplacement sur un théâtre de guerre, comme lorsque on voit des présidents de la République qui se déplacent sur les théâtres d'opérations extérieurs pour aller soutenir les soldats. En l'occurrence, on est aussi d'ailleurs au cœur du dispositif militaire, puisqu'il s'agit d'un hôpital de campagne. Il est chef des armées. Ce sont les armées qui déploient aujourd'hui des moyens considérables pour venir en aide
Sauf qu'aujourd'hui, ce que les soignants attendent, ce sont des moyens, des masques et des tests.
Bien évidemment, ils attendent cela. Ils attendent également de la marque, je veux dire, de l'implication du plus haut niveau de l'exécutif. Et Emmanuel Macron, il fait son métier de président, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il doit montrer effectivement qu'il est là. Il doit faire cela pour tenter aussi peut-être, si je puis dire, de masquer eh bien quelques lacunes, les carences, les impéricies, les polémiques, le stress. Ah oui. On me disait encore aussi un niveau assez élevé l'exécutif tout à l'heure que effectivement le stress c'était de l'approvisionnement, de la logistique et de tous les moyens de base en ce qui concerne justement les masques et tout le matériel de ce point de vue-là qui manque et on le sait. Donc il est dans cette logique-là où la scénographie aujourd'hui,
franchement, elle Michael, est quand même... il risque d'être attendu fraîchement, d'être reçu fraîchement, oui ou non, sincèrement.
Bah pour l'instant, d'abord, il n'est pas dans une logique de ban de foule. Hein. On voit bien qu'il est arrivé extrêmement. Au-delà de cela, c'est à mettre en abîme, si je puis dire, avec une fois de plus la vague quotidienne du sondage BVA avec lequel nous sommes partenaires, qui montre que de plus en plus les Français sont critiques à l'égard de la gestion par le gouvernement de cette crise, qui sont inquiets vis-à-vis de la crise.
37% seulement
se disent confiants. Voilà, qui, de manière assez intéressante et étonnante, ils se disent confiants sur l'ambiance dans le confinement en ce qui concerne leur propre foyer. Ils voient que leur entreprise fait tout pour aussi essayer de les sauver, mais en ce qui concerne la puissance publique, eh bien, ils restent extrêmement circonspects. Donc, on voit bien qu'il y a cette gestion à pour le président de la République à gérer. D'autant plus que la journée a commencé aussi avec l'appel à l'aide
de Martin Hirsch.
On a entendu tout à l'heure le professeur Lantieri. Donc, vous voyez, on est monté d'un cran dans la dramaturgie et l'aspect dramatique de la situation que nous vivons.
Alors, juste un mot avec un auditeur qui nous appelle ce soir. Jean-Gaël, bonsoir à vous, bienvenue au 3921 avec nous sur Europe 1. Jean-Gaël, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Comment vous sentez aujourd'hui, à la fois compte tenu de ce que nous dit le président de la République ou le Premier ministre au fil des jours, et bien entendu au regard aussi des soignants qui nous appellent au secours,
Moi, bien sûr, d'abord, je dis à tout le monde, restons chez nous le plus possible, restons chez nous. Hein. Nous, ça fait 10 jours qu'on est confinés, on n'a pas attendu l'adresse de Emmanuel Macron lundi soir. Dès le dimanche matin, on était confinés, donc restons disciplinés. Et puis, malheureusement, pour nous, si pour rien lambda, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, quoi, à part soutenir autant qu'on peut nos personnels soignants. Et puis, rester confiné, si vous voulez. Moi, c'est tout ce que je peux faire, ce que je fais aujourd'hui, ce que je peux dire, quoi, bien sûr.
Et pourtant, ce n'est pas simple forcément pour vous, parce que je crois que votre épouse attend le troisième. Super nouvelle, mais ça ne doit pas être facile au quotidien. Vous nous appelez d'Aix en Provence. Merci beaucoup et bon courage à vous avec les deux petits et le troisième qui pointera bientôt le bout de son nez et plein de bonnes choses. Merci de votre appel. Emmanuel Dutheil, on va parler des EHPAD avec Ève Roger dans un petit instant parce que là, bien sûr, on tire la sonnette d'alarme. On a vu des témoignages édifiants aussi, même de personnels qui veulent rester, qui veulent s'enfermer avec les patients, avec les résidents pour les protéger. D'abord, Emmanuel Dutheil, pour soutenir les entreprises, et on l'a entendu avec Muriel Pénicaud ce matin sur Europe 1, ministre du Travail, 25 ordonnances, un nombre exceptionnel avec un fonds d'aide aussi d'1 milliard d'euros, des ordonnances qui vont s'appliquer dès vendredi pour soutenir les entreprises. On est dans le maximum du maximum.
On est au maximum du maximum avec une formule qu'a utilisée Édouard Philippe qui est « l'urgence dicte sa loi ». C'est-à-dire que ça veut tout dire, c'est-à-dire que la situation est tellement grave, la situation est tellement inédite qu'il faut aller très fort et très vite. Et c'est vrai que là-dessus, le gouvernement agit quand même plutôt bien pour essayer de rassurer. Mais tout est en train d'exploser, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques jours, on tablait sur une prévision de recul de la croissance d'1%. Là, ça y est, tout ça, ça vole en éclats. On a eu Moody's, qui est une des principales agences de notation tout à l'heure, qui nous a dit que ce sera au moins 1,4%. Et encore, c'est du doigt mouillé. Donc effectivement, là, ce que veut faire le gouvernement, c'est avancer vite sur plusieurs points. La survie des petites entreprises, les prêts garantis par l'État, le fait de ne pas perdre les compétences, de ne pas mettre au chômage trop de gens, le chômage partiel, Muriel Pénicaud est venu le rappeler encore ce matin sur Europe 1, avec une disposition extrêmement importante hein, là pour tous les patrons qui sont en train de nous écouter et qui veulent mettre leurs collaborateurs, parce qu'ils n'ont pas le choix, au chômage partiel, mais ils font une demande et si en 48 heures il n'y a pas de réponse, eh bien ça veut dire que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a tellement de demandes en ce moment que le gouvernement ne peut pas faire face, mais ils veulent aller dans la simplification et vérifieront bien évidemment après coup. Donc vous voyez, sur tous ces points-là, on est dans l'urgence qui dicte sa loi.
Voilà, l'urgence qui dicte sa loi. Et je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure le professeur Lantieri qui appelait quand même aussi à plus de souplesse, à moins de lourdeur aussi administrative pour les soignants, pour les médecins en ville aussi, dans cette période où si on ne remplit pas ce qu'il faut dans les temps, ce serait bien qu'on soit exempté ou en tout cas qu'on ne soit pas pénalisé. Voilà l'appel qu'il lançait lui aussi. Merci les grandes voix, on se retrouve dans un instant. Hein. Surtout, vous ne bougez pas. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est tous les jours avec Nathalie Lévy à distance. Et le débat des grandes voix, c'est également tous les jours jusqu'à 19h avec nos experts, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste, et Emmanuel Duteil en charge de l'économie à Europe 1. Ils sont tous les trois à distance, Nathalie Lévy.
Et oui, système D, isolement, même confinement avec les résidents dans les EHPAD parce que le drame est là, entre 100 et 150 EHPAD déjà touchés en Île-de-France par le Covid-19 et on est évidemment avec des chiffres qui progressent constamment. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir.
Merci de nous avoir contacté au 3921.
Il va y avoir une catastrophe dans les EHPAD. Une catastrophe.
Vous, votre époux, pardonnez-moi juste pour qu'on comprenne bien, votre époux est résident d'un EHPAD de quelle région ?
Oui, il est dans la région parisienne et il est en EHPAD depuis 3 ans. Et il est dans une unité qu'on appelle unité protégée, réservée aux Alzheimer. Ils sont 14 et en fait, j'ai appris ce matin la mort encore de 2 résidents. C'est-à-dire que sur 14 de son étage, 4 sont décédés. Et pourquoi je sais que 4 sont décédés ? Parce que ces 4 personnes... avec qui j'avais sympathisé avec les familles de ces 4 personnes et on avait échangé nos numéros de téléphone. Donc sur 14, je sais que les 4 et je n'ai pas connaissance j'ai pas contact avec les autres, mais sur les 14, il y en a déjà 4 qui sont décédés. Et évidemment, je suis dans l'angoisse la plus totale en ce qui concerne mon mari. On peut pas appeler trop souvent parce que les pauvres, ils font tout ce qu'ils peuvent. Je sais que j'ai la chance d'avoir mis mon mari dans un EHPAD qui ne manque pas de masques, qui ne manque pas de tenues. Elles ont des surblouses, elles ont des charlottes. Mais malgré tout, le microbe est rentré.
Le Covid est entré.
Et voilà, sur 14, 4 de partie et peut-être plus. Mais ça va être une catastrophe parce que certains EHPAD ne sont pas équipés comme celui-ci. Et quand on saura le nombre exact, je pense que ça va être très, très, très important.
Il est bouleversant, votre témoignage, Michel. Vous avez pu juste joindre votre mari, votre époux ?
Mais non, pas du tout. Absolument pas. Parce que mon mari est très fatigué.
Ouais, unité,
on me dit tout le temps qu'il est très fatigué. On lui a mis le téléphone près de l'oreille, mais il ne répond pas. Ouais. J'ai la chance, on m'a dit aujourd'hui, j'ai le moral qui est remonté un petit peu parce qu'il a mangé et bu. Ce qui fait qu'il n'a pas eu besoin de perfusion, mais je suis dans l'attente. 4 sur 14, et peut-être plus parce que je ne sais pas, et on ne me dira pas parce que ça ne me regarde pas, je ne fais pas partie de la famille des autres, mais je me dis qu'à tout moment, on peut m'appeler pour me dire, et je ne le reverrai pas. C'est ça qui est dramatique,
je ne
le reverrai pas. Ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas vu, je ne le reverrai pas, 55 ans de mariage. On a été super heureux et je ne le reverrai pas.
Michel,
sais comment ça se passe. Les pompes funèbres viennent très vite et je ne sais même pas si je pourrais assister à la crémation. Moi, je suis confinée toute seule. C'est dramatique ce qui se passe dans
c'est
les
dramatique.
EHPAD. Dramatique.
C'est bouleversant votre témoignage, Michel. Vous vivez une situation épouvantable, comme beaucoup de Français. C'est terrible et on compatit. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage. On a sincèrement, j'en ai la chair de poule à vous entendre parce que c'est une situation extrême, évidemment. Oui. On espère que vous aurez de bonnes nouvelles et on pense bien à vous. Merci beaucoup d'avoir appelé ce soir sur Europe 1 et évidemment, on rediffusera votre témoignage qui est bouleversant. Ce soir, on pense bien à vous et à votre époux. Mickaël Darmon, on est dans une situation extrême. On est dans une situation extrême pour les familles qui sont coupées de leurs proches, que ce soit en EHPAD, que ce soit en milieu hospitalier également, parce qu'on ne peut pas rendre visite à nos grands-parents, à nos parents, à nos enfants. On est dans une situation extrême sur le plan humain, sur le plan éthique. Ça pose des questions.
Et donc, sur le plan politique, parce que ce que vous venez de dire, d'abord, je m'associe à ce que vous venez de dire sur ce que l'on ressent à l'instant même en écoutant Michel, qui effectivement nous bouleverse et nous fait toucher du doigt ce que des milliers de familles sont en train de vivre et malheureusement vont devoir vivre, c'est-à-dire ne pas pouvoir dire au revoir à leurs proches dans les EHPAD et ne pas pouvoir les accompagner comme il le faut pour ces moments terribles. Et cela, ça sera quelque chose qui alimentera la demande puissante d'explication à la fin de cette épidémie ou quand les Français le décideront pour dire il faut que nous expliquions ce qui s'est passé. Emmanuel Macron l'a parfaitement aussi compris ce point de vue-là. On se demandait tout à l'heure pourquoi sort-il sur le terrain. Il devrait tout à l'heure annoncer par exemple que 29 000 tests par jour vont être bientôt effectués dans les EHPAD. C'est ce qui circule donc de différentes sources de presse qui devraient certainement confirmer. Parce que la question du test, au-delà de la question de l'EHPAD, hein, effectivement, qui est évidemment en soi très particulière et très et terrible. Mais d'une manière générale, la question du test va cristalliser aussi, et on le voit dans les études très finement sur l'opinion, est en train de cristalliser le sentiment d'une attitude à deux vitesses, de Français à deux vitesses. Il y a toute cette polémique qui maintenant s'installe sur pourquoi certains peuvent tester et pas d'autres. Pourquoi ne faisons pas attention un peu plus, comme le professeur Lantieri d'ailleurs le disait tout à l'heure, à ce que dit le professeur Raoult à Marseille, dans des circonstances exceptionnelles, Didier Raoult, dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons. Cette question du test et cette question d'une attitude à deux vitesses est en train de s'installer aussi dans la société, en train de se répandre. Ce matin, sur Europe 1, on a diffusé aussi le témoignage d'une infirmière qui racontait, qui expliquait qu'on lui volait, on avait volé son, ou tenté de voler son caducé sur le pare-brise. Pourquoi ? Parce que c'est considéré comme étant un laissez-passer par certains. C'est-à-dire qu'il y a maintenant le sentiment que certains ont droit ou ont accès à des capacités de pouvoir être testés, voire être soignés, et d'autres non. Le télétravail également installe un sentiment pour certains, c'est évidemment pas vrai, mais de clivage entre ceux qui peuvent rester chez eux tranquilles et ceux qu'on envoie en première ligne, les caissières, les manutentionnaires, les camionneurs, pour aider les autres. De ce point de vue-là, il faut faire très attention parce qu'il y a par exemple un hashtag qui commence à se répandre aussi sur les réseaux, hashtag Ils savaient, et qui est en train de rassembler, et ça c'est évidemment très grave, alors, de rassembler les tentations complotistes.
On va y revenir, si vous le voulez bien, si on a le temps, et sinon ce sera demain évidemment avec vous, Mickaël Darmon, mais je voulais finir sur la question des EHPAD, tragique, on l'a entendu, Ève Roger, avec ce témoignage de Michel, incroyable, j'en ai encore la chair de poule, hein, pour tout vous dire.
Oui, c'est terrible.
C'est terrible. On a su, à l'instant qu'Emmanuel Macron allait prendre la parole là ce soir à 20h depuis cet hôpital de campagne de Mulhouse, donc rien à voir, mais encore un mot peut-être sur ce qui se passe là à l'heure actuelle dans les EHPAD.
Alors, c'est terrible ce qu'on a entendu, c'est effrayant, et c'est effrayant d'autant plus qu'on ne sait pas. On ne sait pas combien de morts dans les EHPAD, personne ne fait la comptabilité parce que c'est au directeur d'établissement de faire remonter les chiffres. Ils vont mettre en place une application pour essayer de savoir combien de personnes risquent de mourir du Covid-19 dans ces maisons de retraite, et je trouve que c'est la première. Ne pas savoir, c'est pire encore que tout. Après, sur ce qui se passe, moi je voudrais donner peut-être une note d'espoir. C'est-à-dire que Olivier Véran, samedi, a promis 500 000 masques pour les maisons de retraite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les régions les plus contaminées, c'est-à-dire le Grand Est et l'Île-de-France, ça risque d'être difficile, d'être trop tard. Peut-être pour les autres régions, dans les EHPAD des autres régions, parce qu'il y en a aussi, peut-être que enfin, l'arrivée de ce matériel, de ces outils, de ces charlottes, de ces surblouses, etc., pourra permettre de limiter la casse. Et ça, c'est important. Il faut garder espoir, parce que quand les personnels auront ces outils à disposition, peut-être que ça pourra quand même un peu mieux se passer, qu'on pourra un peu éviter cette catastrophe qui est annoncée.
Ouais, alors le tout, c'est qu'effectivement, ce ne soit pas trop tard, et c'est ce qu'on espère évidemment de tout cœur, et on est évidemment aussi avec ces familles qui nous contactent, à qui on donne la parole le soir au 39-21. C'est important, exprimez-vous, faites-nous passer vos messages, on les relaie bien sûr. Emmanuel Dutheil, un petit peu plus loin, parce que c'est aussi intéressant de faire la comparaison ce soir et de se regarder finalement dans le miroir. On regarde outre-Atlantique, les États-Unis qui ont tardé, c'est le moins que l'on puisse dire, mais qui, quand eux, ils agissent, ils ne le font pas à moitié.
Oui, effectivement, c'est assez impressionnant, le chiffre qui est sorti, 2 000 milliards de dollars. C'est quoi ces 2 000 milliards? C'est le plan de relance américain. On pourrait dire qu'ils sont tellement plus gros que la France en termes d'économie, mais quand même, nous, on est, allez, on va dire sur 50 milliards d'euros à la louche, là on a 2000 milliards, avec des choses extrêmement symboliques. Par exemple, les Américains les moins aisés touchés par cette crise vont recevoir directement un chèque à la maison. Des travailleurs indépendants qui se retrouvent au chômage à cause de ça vont avoir plusieurs mois de salaire. Les petites entreprises vont là également avoir des prêts, mais avec aussi beaucoup de choses pour l'hôpital. Mais alors, quand on regarde de toute manière le système de santé américain, c'est tellement catastrophique dans une bonne partie des hôpitaux. Il y en a bien évidemment des excellents pour ceux qui ont les moyens. Mais en tout cas, c'est un plan de relance quasi historique. En 2008, il y a eu des milliards, des dizaines, des centaines de milliards qui avaient été injectés dans l'économie. Mais là, comme ça, d'un coup d'un seul, de façon massue, avec aussi du côté du Sénat américain, le chef du Sénat du Parti républicain qui dirige le Sénat avait là aussi un discours totalement guerrier pour venir défendre ce plan. Vous voyez, il disait c'est un investissement digne d'une époque de guerre, donc partout dans le monde. Et je peux vous dire que c'est capital. Il faut qu'il s'en sorte d'un point de vue sanitaire, mais il faut qu'il s'en sorte d'un point de vue économique. Pourquoi? Parce que c'est le troisième moteur de l'économie qui va s'éteindre. On a déjà eu la Chine qui s'est éteinte et qui ne s'est toujours pas rallumée. On a l'Europe qui est complètement à l'arrêt. Si en même temps vous éteignez les États-Unis, là vous fermez la lumière partout et puis vous attendez de voir comment ça se passe. Donc voilà. C'est capital de voir que ce plan donne un petit peu d'espoir. Alors je suis désolé, après le bouleversant témoignage de Michel, mes histoires d'économie, ça paraît complètement dérisoire, mais en tout cas les investisseurs veulent y croire, parce que vu qu'on s'était amusé à faire quasiment un point bourse tous les soirs dans ces grandes voies, on est en hausse à nouveau à Paris, 4,47. Et hier, Wall Street avait connu la plus forte hausse depuis 1933, plus de 11% de hausse, justement parce qu'il y a cet espoir que cette réponse américaine soit à peu près à la hauteur de cet enjeu majeur.
Voilà, il faut bien que le monde tourne, et c'est pour ça aussi qu'on parle d'économie chaque soir avec vous, Emmanuel Duteil, qui est spécialiste de ces questions. On va se laisser dans quelques secondes, les amis. Bah oui, maintenant c'est les amis, parce que évidemment les temps sont durs, donc la proximité, ça fait du bien aussi. Emmanuel Macron à Mulhouse, là, dans cet hôpital de campagne, là, ce soir, Michaël Darmon, il va, on l'a dit, rassurer les soignants, il va peut-être annoncer des choses, est-ce qu'on sait ?
Alors, il devrait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux EHPAD, annoncer donc 29 000 tests qui seront donc effectués pour répondre effectivement à cette urgence. Il y a également une autre annonce qui apparemment se prépare concernant les soignants, c'est-à-dire la création d'une unité de soutien psychologique pour les soignants. On voit bien que, étant donné qu'il est chef des armées, qui se déploie aujourd'hui, qui s'est déplacé sur un hôpital militaire déployé dans le Grand Est. Bien évidemment, les paroles seront en direction de ces personnels. Mais on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des confirmations sur ce qu'on a déjà entendu, c'est-à-dire les dates de confinement, la prolongation et des explications aussi supplémentaires par rapport à cet effort très long auquel les Français doivent se préparer, tel qu'Édouard Philippe l'a annoncé à l'issue de ce Conseil des ministres exceptionnel, qui aussi a vu les ordonnances, l'économie de guerre se mettre en place aujourd'hui, et avec plusieurs dispositifs législatifs chamboulés, notamment le droit du travail.
Évidemment. Et c'est équipé d'un masque que le président de la République est arrivé.
Image absolument exceptionnelle qui montre bien
tout à fait inédite,
effectivement la
situation de crise qu'on traverse à l'hôpital militaire de campagne de Mulhouse. Donc merci beaucoup les grandes voix, Ève Roger, Emmanuel Duteil, Michaël Darmon, et les témoignages de nos auditeurs incroyablement bouleversants. Notamment, on pense très fort à Michel ce soir, et à vous tous qui nous appelez et qui vivez vous aussi des situations ubuesques, dramatiques parfois. Mais...